Jean-Pierre Lemaire, vous êtes un poète français et on dit aussi un poète catholique français. Vous dites la poésie peut être considérée comme un chemin spirituel. Elle a été chemin spirituel depuis toujours, la poésie, pour vous ?
Alors, pas depuis toujours. Elle l'est devenue quand j'avais 25 ans à peu près. Je crois que jusque-là, je n'avais pas bien entendu le message chrétien. Je crois que je m'étais fait une religion un peu artistique, mais en particulier, je crois que je n'avais pas compris l'incarnation. Je tentais plutôt de m'évader de ma condition pour rejoindre les nuages. J'étais passionné par la musique et en même temps, je n'avais pas fait les études nécessaires pour devenir compositeur. Donc j'étais en plein rêve finalement. Et pendant mon service militaire, en fait, je me suis aperçu que pendant que j'essayais de gagner les nuages, Dieu, lui, avait fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il était descendu du ciel, comme on dit dans le credo, pour s'incarner. Et là, du coup, la vie, je dirais la vie ordinaire, la vie présente, a acquis soudain un sens qu'elle n'avait pas avant, puisque Dieu avait fait ce choix. Et en même temps que je me suis converti à la vie, je me suis converti à la poésie, parce que la poésie, c'est de la musique d'une certaine manière, mais de la musique qu'on fait avec les choses, avec les êtres, à travers leur nom. Et donc, c'était une manière de faire de la musique, mais avec ces notes pesantes, en quelque sorte, que sont les êtres, que sont les choses.
Alors, vous avez dit converti à la vie et converti à la poésie.
Oui.
Les deux vont ensemble.
Les deux vont ensemble et converti à la foi chrétienne aussi. Les trois vont ensemble. Alors, la vie, enfin, vie et foi chrétienne, parce que je me suis aperçu que Dieu, dans le Christ, avait fait le choix de la vie, le choix de cette terre, le choix des hommes, si j'ose dire, puisqu'il s'est fait homme lui-même. Ce qui donnait du coup du prix, je dirais, aux choses les plus ordinaires, à la vie la plus ordinaire.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez compris que Dieu avait une maison qui était finalement l'humanité?
Tout à fait. C'est exactement ça. Et du coup, ma vie prenait beaucoup plus de sens.
Votre source d'inspiration, où est-ce que vous la prenez? Les premiers poèmes, comment est-ce qu'ils sont venus?
Alors là, pour moi, la source d'un poème, c'est toujours une émotion. Mais une émotion qui peut venir des choses les plus diverses. Ça peut venir d'une rencontre, ça peut venir quelquefois d'un souvenir qu'on se rappelle, ça peut venir d'un paysage, ça peut venir aussi de la lecture de l'Évangile, un mot qui vous frappe. C'est imprévisible, ça peut vous arriver n'importe quand, n'importe où.
Vous écrivez aussi beaucoup de poèmes en fonction des paraboles ou des versets de l'Évangile ou de la Bible. Comment ça se passe?
Je dirais que ça peut se passer dans deux sens. Ou bien je pars d'un événement de ma vie, d'une rencontre, à laquelle un passage d'évangile apporte de la lumière, apporte du sens. Ça peut être par exemple, je me souviens, il y a une année où l'été a duré très très longtemps. On ne voyait pas les saisons changer. Et en fait, on attendait en quelque sorte que la page soit tournée. Et j'ai mis ça en rapport avec l'attente du fils prodigue, comme si on attendait quelqu'un venir de l'horizon, en maugréant, et je disais finalement, en maugréant contre le père qui nous fait attendre, alors que nous serions impatients justement de tourner la page. Là, c'est la parabole du fils prodigue qui a éclairé les saisons une année. Et puis, quelquefois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je pars du texte biblique et puis je le nourris en quelque sorte de mon expérience. Pour reprendre la même parabole, je me suis souvent reconnu dans le fils aîné en fait de la parabole. Et alors ça m'a semblé dommage en quelque sorte qu'on abandonne le fils aîné à la porte de la salle du festin. Qu'est-ce qui lui arrive après? Est-ce qu'il va franchir le pas? Et le poème, il a été écrit pour donner une suite, en quelque sorte. Pour dire que pour lui aussi, au fond, il y avait peut-être un espoir.
Est-ce que vous avez aussi cette même logique avec le parfum de Marie-Madeleine qui casse le vase aux pieds du Christ?
Là aussi, il y a dans cette parabole quelqu'un dans lequel je me reconnaissais un peu, qui est Simon. Donc Simon le pharisien qui invite Jésus. Jésus donc lui montre quelque chose, mais on ne dit pas comment Simon a réagi après. Et j'imagine que Simon reste dans sa maison plus tard, avec toujours ce parfum qui reste quand même un peu dans l'air, et qu'il imagine au fond que son cœur, son propre cœur, c'est ce vase d'albâtre, mais que lui n'arrive pas à briser.
Vous parlez de la rumination de l'écriture. Comment est-ce que cette parole de l'écriture doit-elle être gardée? Comment est-ce que vous voyez cela? Quel est le lien que vous faites entre la Lectio Divina et la poésie?
Je crois que cette méditation, elle est toujours une sorte de va-et-vient entre l'écriture et la vie. Ce va-et-vient éclaire successivement tel aspect du texte, tel autre, qui vont revenir, et quelquefois de manière imprévisible. Par exemple, il y a un évangile sur lequel je reste depuis des mois, qui est l'évangile du lavement des pieds. Et je sais qu'au départ, je m'étais précipité vers la fin, en quelque sorte, c'est-à-dire, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Mais au départ, j'avais au fond entendu ça un peu comme du moralisme. Il faut servir. Et c'est la vie qui m'a fait revenir avant, à une étape antérieure du texte, où finalement, il faut d'abord accepter que le Christ nous lave les pieds à nous. Et ça, c'est peut-être plus difficile à la limite que de se précipiter tout de suite dans le service. Et c'est seulement quand on a accepté ça, qu'on peut vraiment ensuite servir, en voyant comment nous-mêmes nous avons été servis, quand nous avons vu le Christ plus bas que nous, en quelque sorte. Alors là, on peut peut-être commencer à se mettre un peu plus bas que les autres, ce qui nous est si difficile. La vie me fait quelquefois parcourir le texte à l'envers, en quelque sorte. Elle éclaire tel point, tel autre, pas dans l'ordre.
Quelle est la place du corps dans votre poésie?
Le corps, c'est ce qui va mettre en jeu non pas des idées, ou non pas seulement des idées, mais des sensations. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre de donner à une parole des dimensions dans l'espace, dans le temps en particulier, parce que une parole, je dirais, elle met du temps à pénétrer en nous, elle met du temps à se développer, et c'est ce temps dont un concept ne tient pas compte. Le concept, il nous donne tout d'un coup, d'une certaine manière, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on va l'assimiler sur le moment. Alors que le poème respecte ce temps de développement parce qu'il fait appel au corps, parce qu'il fait appel à la sensation. Et donc, il donne, je dirais, à ce qui a été goûté, le temps de diffuser en nous, de diffuser dans nos représentations, en respectant aussi le temps que le lecteur mettra à entrer dans tout ça. Je crois que c'est une dimension très importante de la poésie, c'est le respect du temps vécu.
Est-ce que finalement, le poème ne vient pas rejoindre en nous quelque chose de l'enfance?
Alors, c'est l'enfance qui crée en nous cette attente, je crois. Et je pense que ce retour à l'enfance n'est pas nostalgie, il est plutôt ressourcement. Parce que l'enfance, c'est aussi le moment où on attend toute la vie. L'enfance est attente de l'avenir, à un point beaucoup plus grand que ce que nous vivons ordinairement. C'est cette attente de l'avenir, cette confiance dans l'avenir, au fond ce désir que la vie comble, tous les désirs qu'on a, c'est cette attente que la poésie rejoint. Attente qui est immense dans l'enfance et qui va se rétrécir peu à peu. Et je crois que quand une émotion, et à travers le poème aussi, rejoint cette attente, c'est toute notre personnalité qui s'épanouit de nouveau. On a un exemple de ça dans Proust, parce que le fameux goût de la petite Madeleine rejoint la Madeleine qu'il goûtait dans son enfance auprès de tante Léonie. Et du coup, c'est un moi nouveau qui peut renaître. C'est l'expérience de la poésie, souvent.
Est-ce que les poètes de l'Europe de l'Est vous ont inspiré?
Oui, énormément. Ce ont été mes maîtres, on peut dire. Boris Pasternak, le russe, Vladimir Holan, le tchèque, Janos Pilinski, le hongrois.
Et dans quelle mesure ils vous ont inspiré?
Alors, je crois qu'ils m'ont inspiré parce que c'est chez eux que j'ai trouvé cette jonction entre le quotidien le plus concret, et la vie spirituelle, une jonction que la poésie française ne m'offrait pas. C'est-à-dire que ou bien on est dans le quotidien, mais je dirais qu'il n'y a pas cet horizon spirituel. Ou bien on est dans le spirituel, mais aussi un peu dans l'abstraction. On ne fait pas le lien avec les surprises de la vie concrète. Ça, c'est un peu, je crois, notre esprit français qui veut ça. Alors Voltaire exprime ça bien en disant que la grande poésie en France, elle s'est développée comme la poésie de la tragédie. Mais dans la tragédie, on parle des grands sentiments, on parle de la politique, mais on ne parle pas de la vie quotidienne, bien sûr. Et la poésie française est un peu restée prisonnière, du coup, d'une certaine abstraction. Les poètes italiens aussi, Umberto Saba m'a beaucoup marqué, eux, ils font spontanément ce lien. Je pense à un poème d'Umberto Saba sur un café, le café Tergeste, où il a passé des heures et des heures, et il termine par ce vers extraordinaire où il parle au café et où il dit « Toi qui réunis tard dans la nuit l'italien et le slave auprès de ton billard. » Si bien que ce café devient dans le dernier vers un lieu de communion extraordinaire, puisque Trieste est cette ville frontière entre le monde slave justement et le monde méditerranéen, ça devient brusquement un lieu de communion. Mais vous voyez qu'on est parti de quelque chose de tout simple, de quotidien, qui était un café.